poule aux vanilles.
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, Yann avec vous pour une nouvelle émission de Boule Vanille, votre rendez-vous estival qui vous sera proposé tour à tour par Lucie, Louise, Iris, Morgane, Quentin, Antoine ou moi-même et peut-être quelques autres. Une émission de 17h à 18h du lundi au vendredi et rediffusion du mardi au samedi matin de 8h à 9h. Nous retrouverons en fin d'émission tout à l'heure un morceau de choix, cette chronique de Ronan Chaplin qui a rencontré Denis, qui nous dira tout sur son morceau coup de cœur, un titre de George Harrison. Et puis avant ça, on rencontrera Caroline Jiquel, régisseuse lumière, dans le deuxième épisode des métiers invisibles du spectacle vivant. Et puis la première partie de l'émission sera consacrée à la découverte d'un festival qui n'est qu'à sa deuxième édition et qui se déroulera dans quelques semaines du 16 au 18 août sur la commune du Juc. Ça fait partie de la commune de Douarnenez et c'est en Finistère que vous retrouverez une riche proposition entre pop synthétique, électro, spectacle pour enfants et puis aussi des boutiques d'art et d'artisanat. Un beau festival à découvrir, il me semble bien, et c'est pour ça qu'on s'y dirige directement du côté de chez Uber. La première édition se déroulait les 18 et 19 août 2023. C'était un coup d'envoi pour les deux organisateurs, les deux créateurs du festival, Tobias Reisenhofer et Leonardo Rivillo. Le premier n'est pas un inconnu de l'organisation de spectacles, en tout cas du côté de Stuttgart en Allemagne, puisqu'il y organise le Kessel Festival. Le second, Leonardo Rivillo, est un comédien de théâtre. Il est originaire du Chili. Et tous deux ont eu envie de créer cet événement sur une grande parcelle d'herbe du côté du Juc en Finistère, tout près de Douarnenez, et de faire la part belle au spectacle plutôt familiaux et puis aux découvertes musicales. Pas mal des fricheuses, des noms qu'on ne retrouve pas sur toutes les affiches de festivals. Vous ne retrouverez pas Chaka Ponk, par exemple, chez Uber, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous y retrouverez des artistes du cru. On y retrouvera, par exemple, le Brestois Reigns, pour un rap assez sombre, évidemment, et puis aussi de l'électro, de la techno. On va commencer directement à plonger dans la programmation de ce festival qui se déroule dans plusieurs endroits. Il y a trois scènes, un chapiteau, une coquille Saint-Jacques, une toile tendue. Le chapiteau, c'est la scène principale. La coquille Saint-Jacques, c'est la scène des DJ qui se relayeront pendant les trois jours. Et puis la toile tendue, c'est la scène des enfants et de la culture. Il y aura des petits spectacles de théâtre pour les enfants. Et puis il y aura un marché de l'art, où vous retrouverez deux dizaines de stands où on pourra découvrir le travail de design d'artistes sur la mode, la joaillerie, le design, l'art, la photographie, le graphisme, la bande dessinée ou la littérature. Et puis aussi un espace bien-être où là on pourrait vous faire peindre si vous le voulez ou vous faire griller des marshmallows. On se dirige donc vers le début de la première journée du vendredi 16 août au Juc près de Douarnenez pour le festival chez Uber et on écoute les Hollandais des Cloud Surfers, plutôt tapageurs les gars et les filles d'un groupe entre garage, grunge, punk. C'est à découvrir vraiment parce qu'ils sont assez cool, les Cloud Surfers. On les écoute maintenant avec ce titre Jagerdang. Vous les verrez donc le vendredi 16 août au festival chez Uber. Toutes les infos sur chezuber.bzh.
j'ai emporté en sortant. Je l'ai découverte en la sautant. J'écris des histoires où tout fout le camp. Nous, ce qu'on a dans le cœur, boy, on le transporte ailleurs. En gros, je suis ce que l'orage est au vent. Bien sûr, je suis trop fort, j'avais trop de temps. Des demoiselles qui avaient les seins blancs. J'ai cassé le miroir, j'ai vu sept ans de malheur. Déchiré, mais y'a rien à fêter ce soir. Sous un lampadaire, je viens pisser rappeler l'espoir. Toujours tête haute, c'est pour mieux compter les stars. Ta poussi danse pour moi, j'suis cuit dans le fumoir. Déchiré, mais y'a rien à fêter ce soir. Tout pareil qu'hier, vidons les réservoirs. Toujours tête haute, la lune m'a rush molar. Comme sa maman saura que sans elle il fait tout noir. Rien d'important, très peu potable. Pas à l'hôpital en décapotable. Fuck le beau temps, j'aime bien le champagne. Préfère le rhum, coca, glaçon, les man size. Rien d'important, t'es que potable. Pas à l'hôpital en décapotable. Fuck le beau temps, j'aime bien le champagne. Préfère le rhum, coca, glaçon, les man size. J'ai tant traîné la nuit. Vous pourra me faire franchement. Lequel d'entre vous me fera taire? Pas de boss ni de subalterne. Nom boy lance la verse, tranche l'adversaire. Appartait au king, pas de grand frère. Et ce matin soleil se lève lentement. Et on les laisse parler rendement. Qui je suis franchement, je l'écris avec le swag de l'étoile filante.
On a changé d'ambiance assez radicalement entre les Hollandais de Cloud Surfers tout à l'heure et puis à l'instant le Brestois Rains. Programmation éclectique, défricheuse et pas du tout à l'image de tous les festivals de l'été. Donc tentez votre chance si vous êtes du côté de Douarnenez les 16, 17 et 18 août pour la deuxième édition du festival chez Hubert. Qui ne se déroule même pas chez Hubert en fait. Hein. Ils avaient décidé, les deux organisateurs, Tobias et Leonardo, d'investir une grande prairie d'un agriculteur du coin qui s'appelle Hubert. Mais au dernier moment, ça a été impossible. Ils ont dû aller voir un autre agriculteur, dénommé Thierry, celui-ci. Mais ils trouvaient quand même que chez Thierry, c'était moins bien que chez Hubert. Racisme de prénom, je ne sais pas comment on appellera ça. Ça paraît plus terroir, Hubert peut-être. Ça paraît plus convivial, des styles. Ah, c'est pas s'il y a des prénoms plus conviviaux que d'autres, j'en doute un peu quand même. Mais en tout cas, vous pourrez aller dans cette prairie chez Thierry, anciennement chez Hubert, voilà, au festival du même nom pour sa deuxième édition au Juc, près de Douarnenez. On écoutait Reigns, on va écouter à suivre un des musiciens invités lors de la première soirée du festival. Vous le connaissez, en tout cas vous connaissez son groupe, le groupe belge Balthazar. Lui, c'est Jay Bernhardt, le projet solo de Jinte de Prez. Et il revient après 7 ans d'absence avec un nouvel album. Il est disponible depuis quelques semaines sur le label Play It Again Sam. C'est très élégant, c'est un groove assez lent, assez sinueux. Il y a un peu d'électronique là-dessus et puis des choses très organiques aussi. Il a un peu fait tout hein, sur le disque. Jay Bernhardt, il est violoniste à la base, mais il a chanté, composé, joué tous les instruments, arrangé, produit, programmé les parties électroniques. Donc c'est un one-man band, on pourra dire, Jay Bernhardt, que vous écoutez maintenant avec ce titre vraiment, vraiment très classe, Taxi. Et on le retrouvera, Jay Bernhardt, au festival chez Hubert, dont je vous parle aujourd'hui dans De Boule Vanille.
Your own. Did I just a crash waiting to happen. Did you give it your all? Was I ever yours?
vous allez de découverte en découverte dans cette balade au festival chez Hubert qui se déroulera dans le Finistère du 16 au 18 août au Juc, une commune de la communauté de communes de Douarnenez, et qui vous permettra de découvrir ce qu'on écoutait à l'instant. Il s'appelle Cari. C'est un groupe qui, d'après le magazine Rolling Stone, était carrément l'une des plus grandes découvertes du festival Primavera à Barcelone en 2018. Bon, depuis, ils n'ont peut-être pas fait grand-chose. Non, c'est possible. Si vous avez aimé Donna Blue récemment, et si vous êtes fan de The Kills depuis une longue date ou des Ravonettes, vous serez un petit peu à mi-chemin du côté très électrique des Kills et des Ravonettes, et puis du côté pop rétro qui fait quelques petites œillades à la carrière de feu Françoise Hardy, eh bien vous les découvrirez, les Cari qu'on écoutait à l'instant avec ce titre magnifique, My Grandma Says We Have No Future. Votre futur, je sais pas si votre grand-mère sera d'accord, c'est d'aller peut-être du côté du Juc en Finistère les 16, 17 et 18 août pour découvrir le festival chez Hubert. Deuxième édition seulement, mais qui s'annonce plutôt excitante, avec une programmation originale, défricheuse, mixte, hein, beaucoup de pop, mais si c'est ça que je vous passe en priorité, il y aura aussi un peu d'électronique et même des choses un peu plus musclées encore pour cette programmation-là, puisqu'on va poursuivre maintenant, justement, avec Mézergues. Mézergues, il sera le samedi 17 août. On ne présente plus ce musicien Géo trouve tout de l'électronique qui, avec quelques synthés intérimines, eh bien emmène des foules dans des danses près de la trance. Oui, on écoute Mézergues maintenant avec ce titre Blue Pink Jam. Vous le retrouverez le 17 août au festival chez Hubert. Thank you. Le breton Blotch, vous l'entendiez à l'instant, il sera pas loin de sa région préférée, la Bretagne, puisqu'il sera en clôture d'une des soirées du festival chez Hubert. Ce sera le samedi 17 août que vous le retrouverez jouer en DJ set, soit des titres à lui, comme c'était le cas à l'instant, le titre Roscoe, soit des choses qui tabassent bien et qui emmènent dans la danse. On poursuit et on termine cette balade du côté du 29 et du côté de Douarnenez, oui, puisque c'est dans la commune de Douarnenez que ça se trouve le Juc, qui accueille donc pour la deuxième édition le festival chez Hubert les 16 et 18 août prochains. Retrouvez toute la programmation et puis les infos sur chezhubert.bzh. Je mettrai un lien bien sûr sur le site canalb.fr. Nous, on va se diriger vers une dernière partie de la programmation avec l'excellente formation franco-américaine Pearl and the Oysters, que je vous ai diffusé depuis bien longtemps, avec toujours de l'élégance dans les compositions, un peu de nostalgie aussi, du son des Beach Boys jusqu'à celui de Broadcast, tout ça savamment mélangé, et c'est à chaque fois des belles claques qu'ils proposent, Pearl and the Oysters. On l'écoute, ce duo, avec à présent le titre Vitamin D. Ils seront en début de soirée, 18h, le dimanche 18 août, au festival chez Hubert. Certes, le Suédois José González, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque au Juk près de Douarnenez le 18 août pour le retrouver dans la région, puisqu'il est aussi au programme du festival La Route du Rock collection été numéro 32, mais il sera là très très heureux de vous jouer des anciens morceaux que vous avez toutes encore, j'imagine, toutes et tous encore dans le cœur. José González, on l'écoutait à l'instant avec ce titre Down the Line, retrouvez-le donc comme ce qu'on a écouté et puis d'autres encore sur le festival Chez Hubert. Retrouvez toutes les infos sur chezhubert.bzh. Nous on poursuit du côté du TNB, tiens, et du côté de la série Les métiers invisibles du spectacle vivant. Qu'il et elle soient en charge des costumes, de la lumière, des décors ou encore de la régie générale, on ne connaît pas leur nom, on ne les voit jamais sur le plateau dans le théâtre quand le rideau est levé. Pourtant, au Théâtre National de Bretagne, à Rennes ou au Festival d'Avignon ou partout ailleurs, sans leur travail, rien ne pourrait avoir lieu, en tout cas pas de manière aussi riche, aussi subtile et aussi harmonieuse. Cet été, dans Debout le Vanille, Sozy Globaille rencontre des hommes et des femmes qui exercent des métiers invisibles du spectacle vivant et qui s'expriment sur leur carrière et ses évolutions, nous parlent de leur bonheur ou de souvenirs moins joyeux. Dans ce deuxième épisode de la série Les métiers invisibles du spectacle vivant, nous rencontrons Caroline Jiquel, régisseuse lumière au TNB, qui nous explique ce qui l'a amenée à cette profession.
Je suis venue à ce métier parce que je travaillais d'abord dans l'administration d'un théâtre. Et c'est le travail en hauteur qui m'a plu en premier. En fait, quand j'ai vu des techniciens arriver dans le théâtre pour faire les installations, et je les ai vus à 6 mètres de haut en train de régler des projecteurs, et je me suis dit, ah, j'aime le spectacle vivant, c'est le bon domaine, mais l'administration, c'est pas le bon métier, et ce que je veux, c'est être là-haut. Donc c'est d'abord le rapport à la hauteur et au dynamisme du métier, au côté manuel, technique, dynamique qui m'a amenée à ce métier-là. J'ai fait une formation, j'avais 30 ans, et je suis allée faire une formation professionnelle à Staff, qui se trouve à côté de Nantes. C'est une formation professionnelle pour les techniciens du spectacle vivant, en spécialité lumière ou son ou plateau machinerie. Donc moi j'ai fait la spécialité lumière. En 8 mois et 2 mois de stage, ça donne les bases de l'électricité, de la technique, de la sécurité, des bases artistiques aussi un peu, pour pouvoir commencer à travailler comme technicien ou technicienne en lumière. Et c'était il y a 16 ans. J'ai commencé ici au TNB, ça a été un de mes premiers employeurs. Il faut savoir qu'à Staff, tous les formateurs, ou quasiment tous, sont des professionnels en exercice. Ce qui fait qu'on peut commencer déjà à se faire un réseau, ce qui a été mon cas. Et donc, grâce à un formateur que j'ai eu à Staff, qui était régisseur au TNB intermittent, j'ai pu commencer à travailler au TNB. une journée, deux journées, et puis ça s'est bien passé. Donc le TNB, c'est un petit peu ma maison mère. Et puis après, j'ai pris un peu mon envol sur d'autres structures, d'autres projets. J'ai aussi fait un peu de prestations, ce qui me convient beaucoup moins. Par exemple, équiper complètement des festivals. Donc on monte tout, de la scène à la lumière, au son, au gradin, s'il y en a. Ça peut aussi être pour faire de l'événementiel, pour des entreprises, avec du son et de la lumière. Ça peut aussi être... Il y a des expériences géniales. On avait mis en lumière Brest 2008, par exemple. En prestation, on se retrouve dans des endroits complètement dingues. On a mis en lumière le Mont-Saint-Michel, par exemple. Donc on peut se retrouver dans des super situations. Mais le rythme et l'objet artistique n'étaient pas le mien. Voilà, moi, dans le spectacle vivant et dans le théâtre notamment, j'aime qu'on puisse prendre le temps de la recherche. Et en presta, ce qu'on appelle en prestation, on n'a pas beaucoup le temps. On est là pour monter. Il faut que ça monte vite.
Il faut que ça se voit.
Il faut que ça se voit. Ça dépend. Spectaculaire, par exemple, ils font des choses qui sont très fines et très subtiles. Mais le travail de réflexion et de création a été fait en amont par des gens dont c'est le métier. Et quand on est technicien et qu'on arrive sur le montage, on n'en est plus à se demander ce qu'on met où, pour quel effet. Mais ça peut être très subtil sur des éclairages extérieurs, architecturaux ou dans des sites naturels. On peut faire des choses qui sont vraiment esthétiques sans pour autant que ça en envoie plein les mirettes, quoi.
Mais Caroline Jiquel exerce en fait plusieurs métiers en un.
Je suis régisseuse, mais en fait, j'ai trois métiers, comme beaucoup de mes collègues. Je suis technicienne, c'est-à-dire que je vais exécuter le travail de montage qu'on me demande de faire. Quand je suis régisseuse, ça veut dire que je suis plutôt en coordination d'équipe pour la même chose. Et puis, je suis aussi éclairagiste, c'est-à-dire que je travaille plutôt, moi, avec des petites compagnies. Ça n'a rien de négatif, mais sur des projets de petite taille. Et où là, je viens faire la création lumière du spectacle. C'est là qu'on peut y mettre notre petite touche artistique, parce qu'on décide de ce qu'on fait en lumière. Pour moi, la lumière dans le spectacle vivant, elle est surtout là pour venir accompagner, appuyer le propos du spectacle, pas pour le dénaturer, pas pour tirer la couverture à soi. L'idée, c'est, en tout cas pour moi, jamais de faire une démonstration de lumière technique, mais vraiment plutôt de venir accompagner, enrober le spectacle et ce qu'il raconte. Pour ça, on a plein d'outils, on a plein de projecteurs différents. On utilise des directions de lumière. Le travail de la direction de lumière est très important, c'est-à-dire selon que la lumière vient de la face, en face du comédien, derrière le comédien, ce qu'on appelle du contre-jour. Si ça vient de direction latérale, ça va beaucoup plus dessiner les corps, les reliefs. Si vous mettez une lampe de poche sous le visage, c'est fantomatique. Ben, on peut faire la même chose au théâtre. Si on met ce qu'on appelle une douche sur quelqu'un, donc une lumière qui est juste au-dessus de lui à l'aplomb, ça va aussi raconter autre chose. Moi, j'aime beaucoup le travail sur la direction de lumière, c'est très intéressant. Après, on travaille aussi sur les teintes, donc grâce à des gélatines, des filtres colorés qui viennent mettre de la couleur, mais on peut aussi colorer du blanc, c'est-à-dire qu'on reste dans du blanc, mais on peut le refroidir ou le réchauffer. Ça reste du blanc, mais c'est du blanc froid ou du blanc chaud. Et puis après, on travaille sur les intensités lumineuses, parce qu'on peut graduer, donc faire varier l'intensité de notre projecteur de 0 à 100%. Donc les intensités sont très importantes. Et puis alors moi, ce que j'adore, en général, c'est en fin de création, c'est quand on vient faire de la dentelle sur les temps de transfert de lumière, c'est-à-dire comment on passe d'une image lumineuse à une autre image lumineuse, et comment on s'imprègne du rythme du spectacle, des déplacements des comédiens, par exemple, pour que tout ça se fasse de manière très fluide, souvent sans qu'on le voie, parce que dans le théâtre, on cherche beaucoup à ce que la lumière ne se voit pas. Elle est là pour éclairer, pas pour être vue, sauf quand on fait des gros effets. Moi, je sais que c'est un des moments que je préfère, c'est quand on arrive à quelque chose de presque fini, et que là, on a encore un peu de temps pour pouvoir vraiment être dans la subtilité des 2-3% de lumière en plus ou en moins, des demi-secondes en plus ou en moins, dans des temps de transfert, pour que tout ça ait l'air... le plus organique possible, le plus naturel possible.
Vous n'êtes pas toujours présente à manipuler les lumières à chaque spectacle. C'est numérique, mais ça veut dire que vous travaillez au plus près avec les comédiens, que vous mettez des traces par terre pour qu'ils soient au bon endroit juste...
Alors, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle des marquages. On met des petits bouts de scotch de couleur, des fois du phosphorescent si on ne veut pas que ça se voit trop, et s'ils ont des déplacements à faire dans le noir, pour qu'ils soient au bon endroit. Ça, c'est quand on a des éclairages, ce qu'on appelle des ponctuels, c'est-à-dire qu'ils n'éclairent qu'un tout petit endroit très spécifique. Les danseurs sont hyper forts pour se placer sans aucun marquage. Ils sont incroyables, mais c'est parce qu'ils ont l'habitude de travailler aussi très nombreux sur un plateau et de se placer pour la danse. Donc, on fait des marquages pour qu'ils se placent. Et puis après, une fois qu'on est en jeu, donc effectivement, quand on fait une création lumière, on a des consoles qui sont des consoles numériques. Donc, on enregistre, en fait, chaque image, les unes après les autres. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle un transfert. On va passer d'une image lumineuse à une autre. Pour ça, on peut enregistrer des temps qui sont déjà intégrés dans la console lumière. Et puis, on fait ce qu'on appelle un go. On appuie sur un bouton et puis le transfert va se faire dans le temps qu'on a donné. Et puis, des fois aussi, on aime bien garder la main sur le temps. Et du coup, on peut faire des transferts en manuel, ce qui est très, très agréable. On se sent très vivant à la console lumière en régie parce qu'on se sent vraiment au plateau avec les comédiens et les comédiennes quand on fait des transferts en manuel. Et ce qui fait que là, on pousse un bouton qui va nous permettre de passer d'une image à une autre. Mais on peut retenir, accélérer, faire des pauses et selon le besoin et selon le feeling un peu. Ce qu'on enregistre, ce sont des images. Et ce qu'on garde comme possibilité d'agir, nous, c'est à quel moment on envoie une image, puis une autre. En fait, on ne lance pas le début du spectacle en lumière et ça déroule jusqu'à la fin. C'est-à-dire, par exemple, on appelle ça une conduite lumière, c'est-à-dire tout ce qui est enregistré dans la console et qui correspond à tout le déroulé du spectacle. Et par exemple, sur une conduite lumière, on peut avoir, sur un petit spectacle, on peut avoir 40, 50 images différentes qui vont se succéder. Et par contre, c'est moi qui appuie sur le bouton pour passer d'une image à une autre, systématiquement. On est dans du spectacle vivant et on ne peut pas appuyer sur un bouton au début du spectacle et revenir à la fin, en fait. Et heureusement, parce que sinon, notre métier aurait quand même beaucoup moins d'intérêt.
Ça veut dire que vous êtes présente tout le temps à tous les spectacles ?
Moi ou quelqu'un d'autre, mais de toute façon, il faut quelqu'un tout le temps à la régie lumière pour pouvoir accompagner le spectacle. Et puis le métier de régisseur, enfin en fait, pour pouvoir... jouer un spectacle en lumière, il y a le moment du spectacle quand le public arrive et le moment où on va accompagner en lumière le spectacle, mais il y a tout ce qui s'est fait en amont et là qui doit aussi être fait par des êtres humains, c'est-à-dire d'installer les projecteurs, de régler les projecteurs, de faire des répétitions. Quand on change de salle, entre deux dates de tournée, on change aussi de distance entre les projecteurs et la scène, par exemple, de hauteur, d'accroche des projecteurs. Et ce qui fait qu'on va retoucher toutes les intensités de tous les projecteurs dans tout le spectacle. Parce que si on rajoute 2 mètres de distance entre le projecteur et le comédien, eh ben, ça veut dire qu'il va falloir que la lumière soit un peu plus forte pour pouvoir couvrir ces 2 mètres-là en plus. Donc, en fait, on a un gros travail qui nécessite parfois sur des gros spectacles, par exemple, qu'on arrive 3 jours avant la première représentation. Parce qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de travail, d'installation et après de répétition et de retouche sur la lumière elle-même.
J'en parlais avec Tuc Dual.
Tuc Dual Trémel, régisseur général plateau au TNB, que Soizic a rencontré dans le premier épisode de cette série sur les métiers invisibles du spectacle vivant. À réécouter sur canalb.fr.
Il disait que quelquefois vous aviez 2 jours pour installer, donc ça c'est parfaitement inconfortable par rapport à ce que vous êtes en train de me dire.
Tout dépend de l'ampleur du spectacle. Moi je tourne sur des petits spectacles, entre guillemets, où j'arrive le matin et on joue le soir, parce que ce sont des petites formes et ça le permet. Et puis il y a des spectacles où il faut 3 jours pour tout installer, parce que ce sont des très grosses machines. Et quand je dis 3 jours, c'est 3 jours à 12 heures par jour, hein. Pas à 8 heures, parce que ce sont des très grosses machines. En fait, on peut avoir un tout petit spectacle avec 2 projecteurs, et puis on peut avoir un énorme spectacle avec 300 projecteurs, et le temps d'installation, ce qu'on appelle le temps de montage va dépendre de l'ampleur du spectacle. Le tout, c'est d'essayer d'être au plus juste dans notre prévision, dans le temps dont on a besoin, pour pas faire embaucher des gens trop longtemps, parce que l'économie du spectacle est difficile, surtout en ce moment. Donc pour ne pas faire embaucher des gens plus longtemps qu'on a besoin, mais pour ne pas non plus se retrouver à court de temps et pour être prêt.
Dans les métiers invisibles du spectacle vivant, une série proposée par Soizic Le Bail sur Canal B, Caroline Jiquel, régisseuse lumière au TNB, nous dit pourquoi elle apprécie particulièrement éclairer les danseurs et les danseuses.
Les danseurs, c'est le corps qu'on recherche essentiellement dans ce qu'on veut voir. Et du coup, pour mettre en relief les corps, On va avoir des techniques particulières. Par exemple, dans la danse, il y a toujours beaucoup d'éclairage en latéraux. Ça permet de venir dessiner le corps dans tous ses angles, en fait, dans tous ses degrés. Si on n'a qu'un éclairage qui est en face, on va très bien voir le visage, mais tout va paraître un peu plat. Donc on va venir ajouter des contre-jours qui vont venir dessiner le haut de la tête, la nuque, les épaules, toute la silhouette. Et puis après on va rajouter des latéraux qui vont venir dessiner là pour le coup chaque muscle, chaque relief du corps du danseur. Et puis avec les latéraux, ce qu'on peut faire, ce qui est super, c'est qu'on peut faire disparaître le sol. Et c'est-à-dire que si on n'éclaire pas le sol, eh ben on a l'impression que les danseurs ils sont en lévitation, qu'ils flottent. Et donc la danse, c'est très très agréable à éclairer parce qu'on est sur une recherche qui est très esthétique. On peut se permettre aussi beaucoup plus de choses en effet lumineux que sur un spectacle de théâtre très réaliste, par exemple, où on ne voudrait pas des gros effets. Et la danse permet aussi de venir faire des effets, donc de jouer un peu plus avec la lumière. Puis c'est vrai que dans le théâtre, on a beaucoup besoin de voir le visage des comédiens, toutes leurs expressions. Et des fois, moi j'adore les contre-jours et les latéraux, et c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant de devoir toujours écraser tout ça avec du l'éclairage de face parce qu'on a besoin de voir les visages. Donc j'aime beaucoup éclairer la danse pour ça.
Vous m'avez dit tout à l'heure quand vous êtes arrivée que vous aimiez particulièrement éclairer les danseurs. Vous voulez bien en dire deux mots ?
Et oui, parce que...
Au théâtre, quelquefois, c'est la voix qui l'emporte aussi. On n'a pas forcément obligé d'éclairer le visage, non ? Quelquefois, une voix qui vient de l'ombre...
Tout est question du propos, en fait, du spectacle et de l'envie du metteur en scène. Et le gros travail de l'éclairagiste, c'est de comprendre les envies et les besoins du metteur en scène et de les traduire techniquement, en projecteur, en emplacement de projecteur, en couleur. Donc, oui, le contre-jour est aussi beaucoup, beaucoup utilisé. C'est hyper beau d'entendre un comédien dont on devine seulement la silhouette et dont on ne voit pas le visage. Mais il y a quand même beaucoup de choses en théâtre qui passent aussi par les expressions du visage et on a besoin de les voir et c'est normal.
Caroline nous parle à présent des rapports entre metteuse ou metteur en scène et éclairagiste. Qui propose quoi à qui ?
C'est très très variable. Il y a des metteurs en scène qui sont des très bons techniciens et du coup ils ont déjà des idées assez précises. En tout cas ils connaissent bien les projecteurs, ils connaissent bien la lumière, donc ils ont des idées assez précises de ce qu'ils ont envie de voir. Ça c'est bien parce qu'on se sent cadré, on sait où on va, mais c'est un peu moins créatif pour l'éclairagiste. Il y a des metteurs et des metteuses en scène qui laissent toute liberté à l'éclairagiste. En fait, on a des temps de discussion en amont. Et puis, moi, je vais avoir des répétitions avant de commencer à penser la lumière. C'est-à-dire que souvent, le travail de répétition a déjà commencé. Il faut aussi travailler avec le ou la scénographe s'il y en a. Parce que du coup, selon le décor qu'il va y avoir au plateau, notre lumière va beaucoup changer. Et puis, c'est beaucoup de discussions avec le ou la metteuse en scène. Et certains n'ont pas d'idées préconçues. Et c'est très agréable parce qu'on fait des propositions. Il y a des metteurs et des metteuses en scène, parfois, qui vont se référer à des artistes peintres ou à des photographes en disant « j'ai envie de ça comme ambiance, j'ai envie de clair-obscur, j'ai envie de noir et blanc ». Très difficile à faire le noir et blanc en lumière, en spectacle vivant. Donc c'est très très variable selon les gens avec qui on travaille. Et c'est vrai que c'est très agréable quand on a beaucoup de liberté et qu'on propose des choses au metteur en scène et que là, il ou elle nous dit « ah bah ça oui, j'aime bien » ou « bah ça non, ça me cause moins ». On travaille ensemble comme ça.
Et avec les comédiens, comment ça se passe ?
Dans les petites productions, on est très poche. Déjà parce que les salles sont petites donc et parce que l'économie financière est petite aussi. Donc on doit travailler tous ensemble. Et c'est très agréable parce qu'on peut les impliquer plus à notre travail de création et on peut se permettre de dire « Ah, si tu te décalais de 20 cm là ou si tu avançais un tout petit peu là, ce serait mieux. » Moi, je ne suis pas éclairagiste sur des grosses productions. Je n'ai jamais fait de création sur des grosses productions. Mais quand je travaille sur des grosses productions au TNB, par exemple, comme régisseuse ou comme technicienne lumière, on a quand même très peu de liens avec les comédiens, à moins qu'on parte en tournée avec eux. Mais on est quand même dans des rythmes de travail assez différents. Et quand ils sont en répétition, c'est pas le moment pour intervenir en lumière. En tout cas, pas techniquement. Donc on est derrière la console, on fait des essais, on enregistre des choses. Mais c'est vraiment quand on travaille dans des petites formes et dans des petites structures qu'on a vraiment du lien avec les comédiens et les comédiennes au plateau. Sur des grosses structures, c'est plus compliqué. Les espaces sont immenses et on a beaucoup moins de liens. Ouais.
Est-ce que vous pouvez me dire un spectacle qui vous a ébloui et dont vous êtes très contente, très fière, très émue?
Ah oui, il y en a un. Il est vieux, mais ça a été une révélation. Il y a une compagnie qui s'appelle Fouic Théâtre, qui est une compagnie de Paris, et un spectacle qu'on avait créé. C'était ma première création professionnelle en lumière. Et un spectacle qui s'appelait « Mangez-le si vous voulez ». Il est sorti en 2014, je crois, et il a dû faire sa dernière date à côté de Rennes l'année dernière. Donc il a tourné pendant quasiment 10 ans. Et le travail de cette compagnie est absolument magnifique. Donc ce spectacle-là m'avait beaucoup, beaucoup touchée. J'ai quasiment pas tourné avec, en fait, parce que je commençais à m'installer à Rennes et il fallait que je développe mon réseau rennais. Et le spectacle tournait beaucoup trop. J'aurais pas eu le temps de faire autre chose. Donc j'ai fait le choix de former un autre régisseur qui me remplaçait. Mais en règle générale, de toute façon, quand je fais une création, je forme systématiquement un ou une régisseuse en binôme pour au cas où. Parce que parfois on peut se casser la jambe et puis parfois on part en vacances. Et pour moi, il n'est pas question que la possibilité de tourner du spectacle dépende entièrement de mes disponibilités à moi. Et voilà, donc je forme systématiquement un ou une régisseuse qui est capable de faire le spectacle comme moi, techniquement et humainement, ce qui est très important parce qu'on accompagne une compagnie et des artistes en tournée quand même. Donc c'est même presque plus important humainement que techniquement. Et donc il y a des spectacles dont je fais la création que je tourne au début, le temps de roder le bébé un peu. Et puis après que je transmets à des collègues.
Vous dites à peu près tous la même chose, vous, ce technicien du spectacle vivant. Vous insistez beaucoup sur l'aspect la formation, l'accompagnement, équipe.
C'est absolument essentiel. Quand je suis arrivée il y a 16 ans, j'avais très peur de l'intermittence parce que j'avais peur de la concurrence. Et j'avais aussi un peu peur du machisme en tant que femme. En l'occurrence, alors, du machisme, non, un peu de paternalisme bienveillant, pas forcément bien placé, mais on éduque les collègues à ce niveau-là. Mais surtout, j'ai trouvé aucune concurrence, j'ai trouvé de la cooptation et de l'envie de transmettre. Et ça m'a complètement éblouie. Et on fait rien tout seul, déjà, dans nos métiers. C'est un vrai bonheur de travailler en groupe avec d'autres techniciens, techniciennes qu'on connaît bien et on sait qu'on peut compter les uns et les unes sur les autres. On se fait confiance dans le métier. Et puis surtout, on est remplaçable. Et moi, je trouve ça hyper important de garder en tête qu'on est remplaçable et que ce que moi, je peux faire quand je suis en régie, si je forme bien quelqu'un d'autre, il pourra le faire aussi. Ce qui, moi, va me permettre de prendre des vacances, par exemple, parce que j'insiste là-dessus, parce que c'est très important. Et donc, oui, le travail en collectif. Enfin, moi, j'ai vraiment été hyper surprise de la bienveillance, du collectif et de l'envie de collectif qu'il y a dans le milieu des techniciens et techniciennes du spectacle.
Merci à Caroline Jiquel, régisseuse de lumière au Théâtre National de Bretagne à Rennes. Nous l'entendions dans le deuxième épisode de la série « Les métiers invisibles du spectacle vivant » proposé par Soisy Globaille tout cet été dans l'émission « De boule vanille » sur Canal B. Pour terminer l'émission de boule vanille du jour, c'est un morceau de choix, chronique que vous avez entendu la saison dernière dans Crème de la Crème, conçu par Ronan Chaplin. Morceau inédit, aujourd'hui ce morceau de choix choisi par Denis. Un titre de George Harrison, vous saurez lequel dans quelques secondes. C'est avec ça que De boule vanille se termine aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour à nouveau découvrir des métiers du spectacle vivant et puis d'autres festivals. À bientôt pour de nouvelles aventures. Retrouvez bien sûr De boule vanille sur canalb.fr. Ciao.
Morceau de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau. Morceau. Le morceau.
Emporter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Sadness in his eyes told me that he wanted help.
Mon morceau de choix, c'est Bangladesh de George Harrison sur le concert pour le Bangladesh de 1971. C'est un morceau qui m'a tout de suite accroché parce que bon, y a un rythme assez enjoué, ça donne la pêche comme morceau, c'est assez agréable, c'est une rythmique qui rentre bien dans la tête. Bon, pourquoi j'ai choisi ce morceau Bon, y a une histoire derrière, une histoire qui est un peu rigolote, c'est que j'ai découvert ce morceau sur une cassette que m'avait prêté un copain. Poche, pour ne pas quitter. En fait, c'était la fin de la cassette, il y avait d'autres morceaux très sympas avant, c'était toute la fin. Et d'ailleurs, j'avais même pas la fin du morceau. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que je ne savais pas, et lui non plus, je crois qu'il l'avait enregistré à la radio, c'était peut-être son frère, je ne savais pas de qui était ce morceau. Et pendant peut-être un an avec lui, on savait pas qui c'était parce qu'à l'époque il n'y avait pas Shazam, il n'y avait pas Internet. Donc même si clairement ça parlait du Bangladesh, puisque c'est le titre de la chanson, il le dit Bangladesh. Et c'est juste un peu plus tard que mon père, en rentrant dans ma chambre quand je l'écoute, je lui avais dit tu connais ce morceau? Il m'a dit je sais pas, non, j'ai jamais entendu, mais par contre je pense que c'est George Harrison qui chante, parce que effectivement quand on reconnaît sa voix, mais lui qui connaissait les Beatles, il me dit mais par contre c'est pas un morceau des Beatles, mais je sais pas non plus ce que c'est quoi. En fait c'est dans le concert pour le Bangladesh, qui est le premier concert humanitaire de l'histoire, je crois, en 71 à New York, au Madison Square Garden. Dans ce concert, à la fin, je pense que c'est le morceau de fin, il joue cette chanson, donc qui a été écrite pour ce concert, et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre enregistrement de ce morceau. Il y avait plein d'invités dans ce concert. À la guitare, je pense qu'il y a Clapton qui joue, on reconnaît son jeu. Dans le concert, il y avait aussi Bob Dylan. Puis il y avait aussi Ravi Shankar, parce que c'était organisé par les deux. Alors dans le disque, il y a plein de trucs assez chiants, notamment des grands délires de Ravi Shankar. Mais sinon, le reste de l'album est intéressant, mais c'est clairement cette chanson qui fait la différence.